Bonjour à tous, bienvenue dans Le Monde en Partage. C'est Thibaut Derman, au micro chaque lundi à cette même heure de votre émission d'actualité internationale sur Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre découverte du plus grand pays de l'Amérique du Sud, le Brésil. Après avoir brossé le portrait de la société brésilienne lors de la précédente émission, forcément à grands traits dans le temps qui nous est imparti, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur sa politique étrangère. Alors, lorsque les médias évoquent la diplomatie des pays de l'Amérique latine, il est le plus souvent question du Venezuela, parce que ce pays semble tenir tête aux grands de ce monde, les États-Unis en tête. Pourtant, comme je vous le disais déjà, le Brésil est intéressant à plus d'un titre. La sixième puissance économique du monde, qui est également une puissance agricole et pétrolière, appartient bien sûr au G20. Et il accueillera les deux manifestations sportives à l'impact médiatique le plus fort, la Coupe du Monde de soccer et les Jeux Olympiques. Mais à la différence de son bouillant voisin du Nord, le Brésil semble être une puissance tranquille, pacifique, qui dispose par ailleurs d'un immense capital de sympathie grâce à sa culture et notamment sa musique, son équipe de soccer, la Seleção, ou encore son industrie touristique. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors pour essayer d'aller plus loin que les impressions et mieux connaître les ambitions de ce pays, j'ai invité un amoureux du Brésil. Éric Burgos, bonjour.
Bonjour Monsieur Temmerman.
Alors, vous êtes diplômé en études internationales de l'Université de Montréal et doctorant à l'Université du Québec à Montréal. Pour commencer, la question que je voulais vous poser, c'est quel rapport le Brésil entretient-il avec ses voisins ? Est-ce que ce sont des rapports uniquement commerciaux ? Et en outre, ces rapports ont-ils toujours été bons, y compris durant les dictatures, puisque les pays de l'Amérique du Sud ont connu les dictatures dans les années 70-80 notamment ?
Il faut bien comprendre que l'Amérique du Sud est le premier vecteur de la politique extérieure brésilienne. Cela peut paraître quelque chose de naturel, mais le fait est que durant plusieurs années, les pays de la région se sont, pour ainsi dire, tournés le dos, sans se faire la guerre. Il faut rappeler qu'historiquement, le continent sud-américain n'a connu aucun conflit interétatique majeur depuis le 19e siècle et la fin des guerres de décolonisation. Et justement, pendant la guerre froide et sous les dictatures, la politique brésilienne est resté comme un peu isolationniste et en proie à des conflits internes inhérents à la lutte d'influence des deux blocs idéologiques de l'époque. De nos jours, donc, il n'est plus possible pour le Brésil d'imaginer son avenir sans l'Amérique du Sud. Et c'est dans cette optique que l'accent a été mis sur l'intégration régionale depuis les années 90. Cela touche bien sûr, comme vous l'avez dit, le domaine commercial et financier, dans le cas du Mercosul, mais pas qu'exclusivement. En fait, le Brésil est aujourd'hui mu par une réelle détermination à faire avancer l'intégration dans d'autres secteurs, agricoles, énergétiques, éducatifs ou encore celui de la défense. La création de l'Union sud-américaine des nations, l'UNASUL, en 2008, sert justement cet objectif.
Vous parlez d'intégration régionale du Mercosur, mais le Brésil n'est-il pas perçu comme un voisin encombrant pour ces pays ?
Premièrement, le Brésil est le plus grand pays d'Amérique latine, vous l'avez dit. Il représente près de 50% du territoire sud-américain. Il est responsable de plus de la moitié du PIB de la région et possède une frontière terrestre avec 9 des 12 pays qui intègrent l'Amérique latine. Il est donc normal, d'après moi, que l'État brésilien s'implique de manière significative dans sa sphère géographique. Cette prédominance économique et politique peut, à l'occasion, être perçue comme envahissante et être à l'origine de tensions interétatiques, notamment avec l'Argentine. Certains experts latino-américains d'obédience marxiste utilisent même le concept de sous-impérialisme pour analyser les croissantes inégalités commerciales, en termes de production, mais aussi en termes d'importation-exportation entre le Brésil et ses voisins. Ce qui préoccupe en priorité les pays du Mercosur, c'est en fait le phénomène de l'accaparement des parts de marché par les entreprises brésiliennes, dans le domaine notamment agricole ou celui de la viande par exemple, où le marché brésilien représente plus de 60% du marché sud-américain. Mais d'un autre côté, il faut toujours voir les choses de manière positive également, l'intégration régionale a permis l'abolition du régime de visa de travail et des passeports pour les ressortissants du Mercosur.
Je suppose que le Brésil ne cherche pas nécessairement à représenter une image de puissance encombrante, comme je disais dans la question précédente, mais quelle image globale, de manière générale, le Brésil cherche-t-il à développer sur la scène mondiale ?
Eh bien, historiquement, l'action extérieure du Brésil a toujours été orientée vers la promotion de la paix, la non-ingérence, la recherche de solutions négociées dans les conflits et surtout la défense de ses intérêts nationaux. Ce qui a changé depuis les années 90-2000, c'est la détermination du Brésil à faire de sa diplomatie un élément, je dirais, constitutif de son propre projet national de développement économique et social. La politique étrangère brésilienne est venue appuyer sa politique intérieure, et elle en est même la fonction. En fait, c'est un point très important pour bien comprendre le Brésil contemporain. La posture internationale du Brésil sert avant tout l'objectif interne de cohésion nationale.
On poursuit cette discussion avec forcément un peu de musique brésilienne et une nouvelle chanson de l'artiste originaire de Sao Paulo, mais qui a fait du Québec son deuxième chez-soi, et ce depuis des années, Paulo Ramush, et cette fois un extrait de son dernier album, Bossamba. Voici Histórias de Malandro. Histórias de Malandro, une chanson à la gloire, si l'on peut dire, de la figure typique du malandro. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Éric Burgos ?
Oui, bien sûr. Le malandro, c'est un personnage social caricatural du Brésil, qu'on pourrait traduire en français par magouilleur. C'est le type qui, dans toute situation, réussit à se débrouiller par la ruse et la malice au détriment de certaines autres personnes.
Voilà. Je reprécise que la chanson est de Paolo Ramos, de son dernier album Bossamba. Vous êtes bien à l'écoute du 5FM et Le Monde en Partage. On parle du Brésil cette semaine encore et donc notamment de sa politique étrangère avec Éric Burgos, doctorant en sciences politiques à l'UQAM. On a parlé dans un premier temps du Brésil dans sa sphère régionale. On va parler du Brésil dans le monde. Quels sont ses nouveaux alliés, ses nouveaux partenaires, clients?
Eh bien, pour parler de ce thème, il faut comprendre tout d'abord la stratégie diplomatique originale qu'a adoptée le Brésil depuis les années 2000. C'est une stratégie dite à géométrie variable, c'est-à-dire que le Brésil s'est inséré volontairement dans un système d'alliances spontanées et interchangeants, en s'ajustant selon des affinités déterminées et ses intérêts propres sur divers créneaux. Et d'après moi, c'est un acquis diplomatique qui a beaucoup à voir avec la tradition de coexistence pacifique au Brésil et surtout avec la nature multiethnique de sa société. Si l'on excepte l'Amérique du Sud, c'est sur le continent africain majoritairement que la diplomatie brésilienne se montre la plus dynamique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est passé de 17 à 37 ambassades en moins d'une décennie. Sur la même période, le commerce entre le Brésil et les pays africains ont quadruplé, passant de 4,2 à 27,6 milliards. Entre 2002 et 2007, le président de l'époque, Lula, a visité plusieurs fois près de 12 pays. Les secteurs visés sont les milieux de la construction et de l'ingénierie civile avec une entreprise comme Odebrecht, les secteurs des hydrocarbures avec Petrobras, le secteur minier avec Vale. Bien que ce soit majoritairement des pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert qui bénéficient de ces investissements brésiliens, les deux lions africains que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud reçoivent également une attention particulière de la part des investisseurs économiques brésiliens. C'est d'ailleurs grâce au Brésil que l'Afrique du Sud a pu s'insérer au sein du BRIC élargi sous l'acronyme BRICS, avec l'Inde, la Chine et la Russie, ou encore a fait partie de l'IBAS avec l'Inde et le Brésil. L'IBAS qui est un autre forum diplomatique qui promeut celui-là les relations Sud-Sud. Plus récemment, en 2013, et voilà un sujet important, le Brésil a annoncé lors d'un sommet Brésil-Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie, l'annulation pure et simple de la dette de plusieurs pays africains pour un montant de plus de 900 millions de dollars.
Puisque vous avez évoqué les BRIC, donc je rappelle Brésil, Russie, Inde, Chine, quelle est la place du Brésil parmi ces quatre pays que l'on considère comme étant vraiment les quatre plus gros pays de ce que l'on appelait autrefois le Sud?
Eh bien, le Brésil est la dernière économie du BRIC, la dernière économie en importance des pays membres du BRIC, mais à de nombreux points de vue la plus dynamique. Pour le Brésil, la perspective d'une alliance économique au sein du BRIC avec les trois géants eurasiatiques est plus que séduisante. Premièrement, cela lui permet de faire un contrepoids sur le plan politique à l'hégémonie occidentale et en particulier celle des États-Unis dans les décisions politiques et économiques mondiales. Sa première revendication sur la scène internationale, on le connaît, étant une meilleure représentation au sein des institutions internationales, et notamment avec à la clé un potentiel siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Secondo, la coopération au sein du BRIC peut permettre à Brasilia de pérenniser l'écoulement de sa production agricole, le café, le soja, le sucre, l'éthanol, le bœuf, le poulet, le tabac, le jus d'orange, à même de nourrir la population du BRIC. Principal moteur de la croissance économique brésilienne, ce secteur agroalimentaire représente environ 40% des exportations totales du Brésil. Depuis 2001, l'agriculture brésilienne a assisté à une véritable explosion de ses exportations qui ont progressé de près de 15% par an en moyenne. En outre, le Brésil exporte des matières premières, pétrole, acier, aluminium notamment, des matières premières donc qui sont essentielles pour le développement économique du BRIC.
On voit là ce qui fait la particularité de la puissance du Brésil, une puissance exportatrice. Vous évoquiez tantôt la volonté du Brésil d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'instant, il en a un, mais non permanent. Cela traduit peut-être une volonté du Brésil de s'investir davantage sur l'échiquier mondial. Et pour autant, les prises de position du précédent président, Lula, notamment sur la question du nucléaire iranien, avait pu surprendre les diplomaties occidentales. Quel était le but de Lula dans cette manœuvre?
Eh bien, la stratégie s'explique facilement. Le Brésil possède la 9e réserve d'uranium exploitable de la planète et le savoir-faire nécessaire pour l'enrichissement de l'uranium. Et en la matière, la technique brésilienne d'ultracentrifugation est particulièrement compétitive par rapport à la technologie américaine ou européenne, dans la mesure où elle nécessite 25 fois moins d'énergie, ce qui pourrait permettre aux Brésiliens, au final, de devenir un compétiteur sérieux dans ce domaine. Le dossier iranien offre également une opportunité pour les Brésiliens de s'affirmer sur la scène internationale, en instaurant un dialogue pour le moins désavoué par les Occidentaux. Si le Brésil suit de très près les négociations avec Téhéran, c'est aussi parce qu'il redoute des répercussions sur son propre programme nucléaire. Si les grandes puissances occidentales imposent des limitations et des contrôles de plus en plus rigides à l'Iran, eh bien le Brésil pourrait être à son tour victime de ces mêmes mesures.
Pour terminer, je vais vous poser la même question que j'ai posée à mon invité lors de l'émission précédente, à savoir, donc je reprends en fait l'intitulé de l'éditorial du Courrier International qui titrait « Le Brésil, les États-Unis du 21e siècle ». On a vu ce qu'il pouvait en être d'un point de vue culturel ou social, mais du point de vue de la puissance. Est-ce que l'on peut dire que le Brésil sera effectivement la puissance du 21e siècle ? Et si puissance il y a, est-ce que ce serait pas plutôt une puissance de soft power, de diplomatie douce, on va dire, que de hard power?
Eh bien, en fait, d'après moi, la réponse serait ni l'un ni l'autre et les deux en même temps. C'est-à-dire que, d'un côté, oui, la diplomatie brésilienne peut faire appel à sa culture, à son sport et à tous ses attributs culturels et sociaux. Mais également, le Brésil peut s'appuyer sur son armée, qui est très importante, notamment en Haïti, une armée qui peut assurer la sécurité de ses citoyens et des ressortissants du Mercosur. Je ne crois pas que le 21e siècle sera strictement brésilien, comme on a pu dire par le passé que le 19e siècle était britannique et que le 20e siècle était américain. Je crois que le 21e siècle sera chinois, indien, européen, brésilien, russe, américain, nord-américain, africain, multipolaire, mais que le Brésil a un rôle à jouer et un rôle très important dans le monde à venir.
En résumé, puisque l'on a beaucoup parlé de la musique brésilienne, le Brésil a tous les atouts pour pouvoir jouer sa propre partition sur l'échiquier mondial. Merci beaucoup Eric Burgos d'avoir accepté notre invitation. Je pense que maintenant avec ces deux émissions, nous en savons un petit peu plus sur le Brésil. Aline Zalé est à mes côtés pour sa revue de presse. On en parle juste après cette reprise en français de Lavadeira do Rio. Donc Bia, la chanteuse brésilienne qui est elle aussi installée au Québec depuis plusieurs années, nous chante à la fontaine.
tendre Isabelle. Tu sais que les filles ici ne restent pas demoiselles, mais n'ont jamais de mari. Ne restent pas demoiselles, mais n'ont jamais de mari. Eh oh, le vent me secoue, eh oh, j'attends sous la pluie. Eh oh, je veux mon amour avant la tempête, avant la nuit. Avant la nuit. Eh oh, un vento sopra. Eh oh, a folha caiu. Eh oh, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio.
C'était Bia avec À la Fontaine, une reprise donc en français de la chanson Lavadeira do Rio, qui a été chantée notamment par Elis Regina et même sa fille Maria Rita. Aline Zalé, bonjour.
Bonjour Thibault.
Alors, au menu de la revue de presse cette semaine.
Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection de procès qui ont marqué l'actualité.
Et en particulier celui de Silvio Berlusconi, qui est une nouvelle fois en mauvaise posture.
En effet, jeudi, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de l'ex-président italien pour fraude fiscale. Le président, qui a toujours bénéficié d'une prescription ou d'acquittement, n'a pas pu passer cette fois-ci entre les mailles du filet. Âgé de 76 ans, il est très peu probable qu'il purge sa peine de 4 années de prison, dont 3 ont été amnestiées. Néanmoins, selon le quotidien La Repubblica, avec cette sentence, la vérité est rétablie sur le personnage, mais également sur le faux miracle entrepreneurial qui est à l'origine de son succès politique. Solidaires et indignés, les journaux de droite affichent des titres horrifiés. On peut trouver en une du Libéro un Berlusconi déifié et coiffé d'une auréole sous le titre prophétique « Je ressusciterai » ou encore « La sentence est un coup de massue ». La presse de gauche, elle, se frotte les mains. Condamné, claironne l'Unita. Il Fatto Quotidiano insiste avec le titre « Le délinquant est condamné », à côté d'une photo au ton ironique sur laquelle Silvio Berlusconi ressemble à un gamin pris en faute. Une sentence qui ne laisse pas de marbre et qui marquera définitivement l'histoire de l'Italie.
On part en Égypte, qui se prépare également à un procès mémorable.
La justice égyptienne a fixé au 25 août la date du procès des 6 principaux dirigeants des frères musulmans, dont le guide suprême Mohamed Badi. Une annonce qui pourrait mettre le feu aux poudres au moment où se multiplient les tractations entre islamistes et nouveaux pouvoirs. Mohamed Badi, actuellement en fuite, et ses 2 adjoints en détention, doivent répondre d'incitation au meurtre, tandis que les 3 autres sont, eux, accusés du meurtre de 8 manifestants tués alors qu'ils tentaient d'attaquer le siège des frères au Caire le 30 juin. Le chef de l'armée et nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah el-Sissi, avait auparavant rencontré les 6 figures islamistes, leur affirmant qu'il y avait encore des chances pour une solution pacifique à la crise à condition que toutes les parties rejettent les violences. Si aucun représentant des frères musulmans n'était présent, d'influents salafistes ont participé aux discussions. C'est la première fois que les militaires annoncent officiellement une rencontre entre leur commandant en chef et les dirigeants islamistes depuis la destitution de Mohamed Morsi le 3 juillet. Les émissaires internationaux se succèdent au Caire pour pousser gouvernement et opposition à un compromis, sans succès apparent jusqu'à présent. Malgré la menace, les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations hier pour la nuit du destin, la plus sacrée du Ramadan, et de petites manifestations sporadiques ont eu lieu en journée au Caire.
Et pour terminer, pas de prescription judiciaire pour Jésus-Christ, Aline ?
A priori non, Thibault. Un avocat kényan, Dola Ndidis, estime que le procès et la crucifixion de Jésus-Christ sont illégaux. Il a décidé d'assigner les responsables en justice, l'Italie, Israël, Ponce Pilate et l'empereur Tibère, devant la Cour pénale internationale de La Haye. Selon le site kényan Citizen News, le plaignant, qui s'appuie sur la Bible pour trouver des éléments de preuve, juge en effet le procès de Jésus comme discriminant, malveillant et ayant bafoué ses droits humains. Il est écrit dans la Bible que Ponce Pilate n'a trouvé aucune preuve de la culpabilité de Jésus et qu'il l'a exécuté pour conserver la paix populaire, une preuve, d'après l'avocat, de l'iniquité du procès. Certains de ceux qui étaient présents lui crachèrent au visage, l'ont frappé à coups de poing, giflé, se moqué de lui et déclaré qu'il devait mourir, décrit-il. L'Italie doit donc, selon lui, être tenue pour responsable des actes de ses représentants, Tibère et Ponce Pilate, morts il y a environ 2000 ans. Dola Ndidi s'espère bien qu'un procès aura lieu de son vivant, mais avant le tribunal de La Haye, la Cour suprême du Kenya a refusé en 2007 d'instruire ce dossier. La Cour de justice de La Haye, qui juge les litiges opposant des États, a sobrement précisé qu'elle ne disposait pas de juridiction pour instruire une telle affaire.
Un avocat sans doute en mal de médiatisation. Merci beaucoup Aline. Le Monde en Partage, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite vivement à consulter le nouveau site internet de Radio Centre-Ville. Et toutes les références concernant cette émission sont également disponibles sur notre propre site, lemondeenpartage.wordpress.com. Je vous rappelle enfin que cette émission, comme toutes les autres, est réécoutable en ligne ou en baladodiffusion. C'était Timothée Herman à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Eric Burgos, ainsi qu'à Aline Zalé pour la revue de presse. Vous retrouverez le magazine Centre-Ville juste après la publicité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain avec une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. Je vous laisse avec quelques notes de Marcio Faracu et la chanson s'appelle Ultimo Olhar. Longe do mar de ti, nunca mais fim de semana de sol. Lá em cima do mundo, tive medo de não voltar. Foi ficando tudo escuro, vi a lua se apagar. A noite cai sobre mim agora. Como pude acreditar em não partir? Um frio lá fora e eu aqui, longe Copacabana, longe do mar, longe de ti. Nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, longe do mar, de ti. Nunca mais fim de semana de sol. Lá em cima do mundo, tive medo de não voltar. Se apagar, a noite cai sobre mim agora. Como pude acreditar em não partir? Um frio lá fora e eu aqui, longe Copacabana, longe do mar, longe de ti. Nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, do mar, de ti. Nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, longe do mar, longe de ti. Nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, longe do mar, de ti. Thank you.